les podcasts de Radio Vatican.
Ce lundi, des camions transportant des urnes mobiles ont quitté Oulan-Bator pour rejoindre les habitants des steppes. Car c'est jour de vote en Mongolie. Un an après avoir renouvelé leur parlement, les électeurs doivent élire leur président. Le chef de l'État sortant achève son deuxième mandat de 4 ans. Il ne peut pas se représenter. Près de 3 décennies après avoir quitté l'orbite soviétique, les Mongols ont le choix entre 3 candidats. Un éleveur de chevaux, un judoka ou un maître de feng shui. Tous ont un point commun, ils sont mis en cause dans des scandales de corruption. Le candidat de la majorité parlementaire, Miengombo Engbold, est un ancien premier ministre accusé d'avoir tenté de monnayer des emplois publics contre de l'argent. Son rival du parti démocrate, Kaltma Batulga, est soupçonné de détenir des comptes à l'étranger. Quant au troisième homme, Senku Gambatar, il lui est reproché d'avoir touché un don de 40 000 euros de la secte Moon. Le père Justin Lukuza Mende est le recteur de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Oulan-Bator, la capitale mongole.
Il y a 3 personnalités qui ont été maintenues par la commission électorale. Batulga, qui vient du Parti démocratique, il a une compagnie, il préconise l'unité du pays, et puis pour renforcer un peu les institutions, prendre soin, il parle plus des jeunes. C'est quelqu'un qui est aimé par les jeunes. Alors Ingbold vient, en anglais on dirait Mongolian People's Party, déjà il a la carrière dans la politique, et pour lui c'est un peu plus renforcer les institutions, prendre soin de ceux qui sont démunis, que la Mongolie soit un peu plus forte, des choses comme ça. Et puis, nous avons Gambatar, qui vient aussi en anglais, bien on dira Mongolian People's Revolutionary Party. Dernièrement, il y a un peu de questions. On voulait déjà demander qu'il puisse se retirer de la liste, mais jusque-là, le parquet de Bayanzour District n'a pas encore décidé. Ils vont encore investiguer les cas. Donc, si c'est le cas, donc il sera maintenu, donc ils seront 3. Je ne connais pas grand-chose sur lui.
Il me semble qu'il lui est reproché d'avoir touché un don de 40 000 euros de la secte Moon.
Mais on dit qu'on va investiguer encore. Il faut dire que l'État mongol ou bien le peuple mongol, ça, ce sont des choses politiques. Ils ne veulent pas tellement que ce soit lié aux églises ou bien aux choses religieuses. Ça veut dire que si ça s'avère vrai qu'il a reçu des fonds venant de l'église de Moon, je pense qu'il ne pourra pas être dans la liste. Selon la loi de la Mongolie.
Mais ce n'est pas le seul des candidats. Finalement, tous les 3 sont un peu sous le feu des accusations d'avoir tenté de monnayer des emplois publics, détenir des comptes à l'étranger. Est-ce que le problème de la corruption ou le problème des affaires, c'est quelque chose de la collusion, c'est quelque chose de courant en Mongolie?
S'il faut dire vrai que c'est une société qui fait face à beaucoup de défis. Parmi tant d'autres, la corruption. La Mongolie est présentée au niveau international comme un pays qui se développe et parfois pour trouver l'assistance sociale, ça devient difficile. Mais nous, étant sur place et en étant en contact avec la population, vous voyez que la pauvreté reste un défi. La pauvreté, pas seulement au niveau de biens, mais la pauvreté au niveau, par exemple, manque d'éducation, manque du travail. La vie coûte un peu très cher avec les taxes qui ont été majorées. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de défis. Au niveau de la jeunesse, vous avez la promiscuité. Un défi qui est très clair à Mongolie. À partir des bas âges, vous allez trouver déjà des jeunes qui vivent comme en couple. Beaucoup de jeunes qui ne sont pas accompagnés. Vous avez l'instabilité des familles, l'infidélité des couples, par exemple. Vous avez dans les familles donc la violence à l'envers des femmes et des enfants. Des choses que beaucoup de familles font l'expérience ici. Donc c'est des choses parfois qui ne sortent pas, mais nous tentons d'accompagner au moins ceux avec qui nous sommes proches de l'Église ou les gens que nous pouvons contacter pour aider à travers nos centres que nous avons, à travers le service social de l'Église, et la Caritas, le Mongolie, etc.
Avec, me semble-t-il, aussi des problèmes d'alcool tellement importants qu'il est interdit de boire avant les élections, pendant les élections?
Oui, ça c'est la loi mongole, donc le gouverneur de la ville a déjà annoncé donc il n'y aura pas vente de boissons alcoolisées le 26 au 27, à partir de minuit du 26 jusqu'au 27. Donc il n'y aura rien qui sera autorisé comme manifestation publique.
Vous parliez aussi d'un problème qui est celui du chômage. La Mongolie a cette spécificité d'avoir connu un taux de croissance extrêmement important, 17% il y a seulement 6 ans, et aujourd'hui 1% de croissance. On imagine que ça n'est pas sans conséquence sur l'emploi, mais aussi sur la paupérisation de la population.
En tout cas, c'est ce qui agace un peu, je dis, ça rend un peu difficile pour que beaucoup de familles tiennent pour les deux bouts du mois. Il faut dire qu'il y avait une croissance, mais le fait qu'il y a eu beaucoup de compagnies étrangères qui ont investi en Mongolie dans le temps, mais qui se sont retirées puisqu'il n'y a pas eu respect des contrats faits ou pour d'autres problèmes que nous ne connaissons pas. En tout cas, nous sentons qu'il y a quand même une crise au niveau financier qui est très importante. Et puis, avec l'aide de la FMI et puis la Banque mondiale, tout ça, il faut majorer les taxes, il faut créer des recettes. Mais cela pèse sur la population. Moi, si je dois parler de mes travailleurs ici à la cathédrale, le salaire qu'ils reçoivent ne permet plus de tenir les deux bouts du mois. Ça pousse les gens à toujours emprunter l'argent avec intérêt. Donc les banques font de l'argent et pour remettre, ça devient très difficile. Et ce sont des cas chaque jour, au moins au niveau de la cathédrale et au niveau de la Caritas Mongolie, je suppose, selon les rapports qu'ils avaient donnés. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent solliciter de l'aide.
Pour que le scrutin présidentiel soit reconnu, il faut que 50% des électeurs aillent voter. Est-ce que toutes ces personnes, celles que vous connaissez, celles que vous fréquentez, sont intéressées par ces élections ou est-ce que ça leur semble très loin de leur réalité?
À notre niveau, puisque d'une manière publique, l'Église ne peut pas se prononcer dans cela, ici dans la situation actuelle où nous nous trouvons, mais tout ce que nous faisons, c'est nous prions avec ceux qui sont fidèles et qui viennent à l'Église. Nous leur demandons de prier pour que le Seigneur puisse donner le meilleur parmi ceux qui sont là. Quelqu'un qui peut aider la Mongolie à se relever, à être stable, pour que le pays puisse au moins voir la prospérité. C'est un peu dans ce sens-là. Mais quand vous demandez d'une manière générale, ceux qui suivent un peu la politique, qui sont intéressés, bien, ils sentent le besoin d'aller voter, puisque c'est leur droit légitime. Mais pour qui il faut voter? Et parfois, ils vous disent, nous ne savons pas pour qui il faut voter, puisqu'ils sont tous les mêmes.
Donc une certaine défiance quand même.
Il y a quand même une défiance. Est-ce que c'est à cause de la corruption? Est-ce que c'est à cause de l'influence de l'étranger ou l'influence d'autre chose? Bon, c'est quand même. D'une manière générale, ils disent quand même on va aller voter. On ne sait pas pour qui on va voter, mais nous allons choisir.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.